L'œcuménisme en chemin. Une émission proposée par le groupe œcuménique de Bayonne. Aujourd'hui, nous accueillons l'abbé Gilbert Wangraoua. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le délégué diocésain à l'œcuménisme et aujourd'hui, vous voulez nous parler d'un livre. Alors, de quoi s'agit-il?
Oui, effectivement, je voudrais présenter le guide de préparation au mariage interconfessionnel catholique-protestant.
Quelle est la réalité des mariages interconfessionnels et pourquoi la proposition de ce guide?
Les statistiques des archives du diocésaine présentent depuis sur 5 ans, c'est-à-dire de 2014 à 2018, une moyenne de 17% de mariages entre catholiques et protestants. Et je trouve que c'est pas un rapport négligeable. Et donc, cette réalité œcuménique demande à être accompagnée. Et face aux nouveaux enjeux, donc les changements de société, nous avons besoin d'avoir un cadre de référence pour accompagner justement les couples depuis la préparation jusqu'à la célébration de leur mariage. Et ça intéresse donc évidemment les pasteurs qui sont concernés, mais aussi évidemment donc l'ensemble des fidèles, donc de part et d'autre, catholiques comme protestants, et ça méritait donc d'avoir un guide pour accompagner donc cette pratique-là.
On peut dire qu'en 2018, il y a eu dans notre diocèse 618 mariages catholiques et 100 mariages catholiques protestants, donc interconfessionnels.
Tout à fait. Je ne suis pas rentré dans les détails des statistiques, mais c'est exactement cela, donc pour vous donner une idée. Et puis en 2017, sur 593 mariages, il y a eu 92 mariages interconfessionnels. Donc c'est quand même important.
Pourquoi la rédaction de ce guide de préparation au mariage interconfessionnel?
En fait, le dernier document commun date de l'accord doctrinal de 1972. Et à l'époque, le problème des foyers mixtes, donc ce qu'on dit aujourd'hui, donc les foyers mixtes, donc soulevait la crainte de voir se fonder une troisième église, ni protestante ni catholique. L'expérience semble avoir démenti cette appréhension. Depuis, avec les évolutions sociétales, les nouvelles données ont directement hérité de la sécularisation. Donc, on démentit en fait cette appréhension-là. Et donc, en plus des avancées donc de l'œcuménisme, il était donc nécessaire de proposer un document qui soit en phase avec la réalité d'aujourd'hui, répondant à la fois aux attentes des couples et aux questions des agents pastoraux sur le terrain, à dessein de les accompagner. Donc la rédaction de ce guide, commencé en 2012, a dû s'adapter à ces changements pour donner cette parution finale qui a eu lieu en 2019, il y a exactement 2 ans.
Qui sont les auteurs de ce guide de préparation au mariage interconfessionnel?
Il s'agit d'un groupe, un comité mixte catholique littéraux réformé en France, composé de 2 délégations, chacune composée de théologiens mandatés, d'un côté par la Conférence des évêques de France et de l'autre par la Communion protestante littéraux réformée. Les uns et les autres issus d'une inscription pastorale à des degrés divers. En amont, pour rédiger ce document, il fallait d'abord, aux yeux d'une pasteur de l'Église protestante, Katharina Schulz, donc franchir une première étape herméneutique, celle qui a consisté à apprivoiser l'angle de vue de l'autre, c'est-à-dire entendre et recevoir sans préjugés la terminologie et son implication théologique. Donc, ainsi, en étant attentif aux sensibilités de l'autre, les membres du comité ont réalisé que derrière des mots et approches a priori très différents se cachaient parfois des réalités spirituelles comparables.
Abbé Gilbert Wangraoua, pouvez-vous nous présenter ce document?
Oui, en gros, le document comprend 3 parties. Et la première partie va étudier les évolutions sociétales donc, et du paysage œcuménique aujourd'hui. Donc, en partant des évolutions sociétales, le comité indique d'abord très clairement la pratique des deux églises. Et pour l'église catholique, le mariage est hétérosexuel et indissoluble. Dans les églises luthéro-réformées en France, la bénédiction du mariage peut aussi concerner des personnes divorcées et remariées civilement. En outre, dans l'Église protestante unie de France, il est possible depuis 2015 de bénir des couples mariés du même sexe. Le comité, en examinant cette évolution, a insisté sur l'importance de l'accueil des personnes et des situations, tout en se posant ces questions. Comment tenir compte des situations si diverses et s'engager sans peur dans un avenir ouvert? Comment souligner la signification du lien durable lorsque tant de choses se montrent passagères? Et comment trouver une parole quand les exigences du mariage religieux semblent pour certains aujourd'hui inatteignables? Comment insister sur l'accompagnement par les églises de toutes sortes de familles et en même temps insister sur le bien commun que représente le mariage. Maintenant, toujours dans la première partie, quant au paysage œcuménique aujourd'hui, le document revient sur quelques textes majeurs qui attestent la volonté des deux églises d'aller vers une communion toujours plus visible. On peut retenir, entre autres, la prière commune à Lund, le 31 octobre 2016. Quant à la deuxième partie, donc, va s'appuyer sur les convergences et les particularités des traditions catholiques et luthéro-réformées. Le document va insister encore sur l'accueil pastoral et le discernement des demandes avant de présenter à tour de rôle comment les églises préparent et célèbrent leur mariage, sans entrer dans les détails des traditions doctrinales consignées depuis l'Antiquité tardive jusqu'au Concile Vatican. En passant par le Concile de Trente, il est simplement important de retenir la théologie qui sous-tend chaque pratique. Pour l'Église luthéro-réformée, le mariage relève de la création et non de l'ordre du salut. Il tient au droit civil. Le synode de Dourdan, en 1984, affirme que l'Église réformée de France ne marie pas, entre guillemets, et la cérémonie religieuse étant de l'ordre du témoignage. Le document donc insiste encore, chez les luthéro-réformés, la cérémonie religieuse n'est pas en tant que telle un mariage, mais la bénédiction du couple après son mariage civil. Et le culte est une attestation publique de l'amour conjugal et une bénédiction du couple déjà uni civilement. Et les termes sur lesquels en fait les deux églises vont théologiquement discuter, ce sont des termes clés, c'est les termes de sacrement, bénédiction et alliance. Chez les luthéraux réformés, il y a sacrement quand il y a la parole d'institution du Christ liée à la grâce et signe visible. Seul le baptême et la scène sont des sacrements à leurs yeux. Le mariage n'est donc pas considéré à leurs yeux comme un sacrement parce qu'il n'est pas un don qui apporte aux époux une grâce particulière. Par contre, pour l'Église catholique, le oui réciproque des époux est porteur du oui même de Dieu à ceux qui acceptent d'entrer dans son alliance. Et la tradition catholique, en relisant Éphésiens 5, 31-32, voit dans le mariage une réalité sacramentelle, signifiant l'alliance irrévocable que Dieu a voulu conclure. Le mariage est porteur d'un engagement irréversible sur lequel nul ne peut revenir. En tradition protestante, l'importance théologique accordée à la parole proclamée, entendue et reçue dans l'assemblée de l'Église, fait de la bénédiction de Dieu un événement central pour les mariés. La bénédiction a lieu pendant l'épiclèse, au moment de l'invocation de l'Esprit Saint sur les mariés. Pour la tradition catholique, la bénédiction qui est l'engagement de Dieu du côté du couple, même quand elle a lieu en dehors de la messe, accomplie et complète avec la liturgie, la parole de Dieu et l'échange des consentements, qui n'est pas au rabais, mais un sacrement à part entière. Pour les catholiques comme pour les réformés, le mariage célèbre une alliance. Chez les réformés, il y a même double alliance entre les époux et entre les époux et Dieu. mais s'il est indissoluble du côté donc de Dieu vis-à-vis de chacun des époux, du côté de l'être humain, l'alliance peut être rompue entre les époux, mais aussi entre chacun d'entre eux et Dieu. Je parle bien sûr donc du côté protestant. C'est pourquoi chez les réformés, ils considèrent que le divorce est un signe de l'échec des promesses données, échec qu'il convient d'accompagner pastoralement. Par contre, chez les catholiques, l'insertion de l'alliance conjugale des époux dans l'alliance conclue entre Dieu et son peuple est envisagée plutôt dans une perspective de sanctification. L'alliance des époux exprime la réalité fondamentale de l'alliance conclue par un Dieu fidèle à sa promesse. Ainsi, face à ces fondements théologiques et juridiques du mariage, où facilement on peut dénoncer le laxisme des uns et le rigorisme des autres, les deux églises s'interpellent. Si, je cite le document, si pour toutes nos églises, l'analogie d'Éphésiens 5 est précieuse dans son insistance sur la grâce, les églises de la Réforme insistent sur la fragilité et la vulnérabilité des humains à qui s'adresse l'amour de Dieu. Pour elle, il est important d'éviter un idéal de perfection d'un couple modèle. Par contre, pour l'Église catholique, l'analogie d'Éphésiens 5 est précieuse en ce qu'elle proclame que l'amour des époux est enraciné dans l'amour du Christ et de l'Église. Même si elle tire un fond commun, les deux approches révèlent donc des divergences fondamentales eu égard à la nature de leur théologie et de leur histoire respective. Cependant, les acteurs du terrain peuvent accueillir et accompagner pastoralement et liturgiquement les couples mixtes comme une invitation à progresser ensemble sur la route de l'unité.
Merci beaucoup, Abbé Gilbert Wangraoua, de nous avoir présenté donc ce guide du mariage interconfessionnel. Le mois prochain, nous parlerons des questions pratiques pour préparer au mariage mixte, c'est-à-dire au mariage entre catholiques et protestants. Et nous nous retrouverons donc le mois prochain pour la suite de cette émission. Merci à vous. L'œcuménisme en chemin. Vous venez de suivre une émission proposée par le groupe œcuménique de Bayonne.